historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, mesdames, messieurs!
Ça sonne presque Père Noël, ça.
Oh, que oui, mesdames, messieurs! Comment ça va, mon Sieur
ça
de Terrien?
Ça va super bien, les amis.
Ah,
mieux stress, que vous autres, je pense.
Stress avant l'examen de mi-session.
Ouais.
Bon, comment tu veux procéder là, pour l'examen?
Le stress que t'as en arrivant dans la salle d'examen quand tu sais que t'as pas étudié là.
Ouais, moi je suis direct là-dedans, Vez.
Moi aussi.
Direct. Ça me rappelle là de secondaire 4 jusqu'à la fin de mes études.
C'est-à-dire, ouais. C'est ça.
Alors, comment
en fait, c'est pas compliqué. C'est pas un concours de vitesse. C'est un concours d'exactitude.
Exactement.
Ouais, alors, dans le fond, je vous pose ma question. J'ai des choix de réponse. Et ce sont tous par choix de réponse. Il y a un vrai ou faux dans le paquet.
OK. Ben déjà, j'ai une chance sur deux pour cette question-là. Vous, ça va bien.
Vous me dites votre réponse, puis on fait le décompte à la fin de l'examen.
D'accord. Combien de questions?
Il y en a 10 plus une question bonus.
Une question en développement.
Vous avez jusqu'à demain, celle-là.
Okay. Y a-tu genre une note de passage, c'est-tu 60%?
Oui, ben c'est 60% là, comme à petite école.
OK,
on est prêts?
On ferme les textos. Vous avez le droit de remplir l'examen chez vous à la maison si vous voulez.
Exact.
Vous pouvez texter vos réponses aussi, mais nous autres, on ne regarde pas. Là.
Pour ceux qui viennent juste d'arriver, fm93.com, j'ai placé l'examen de François en une du site web. Vous pouvez y cliquer dessus. Vous n'avez pas les réponses, mais vous avez les questions et les choix de réponses.
Fantastique.
Excellent. Okay. Alors, on part. Quel est le plus petit parc national au Québec? Ça, c'était la première chronique de la saison. Quel est le plus petit parc national au Québec? Est-ce A, le parc du Mont-Tremblant? B, le parc Miguacha? C, le parc du Bic? Ou D, le parc national Tourjouchouk dans le Grand Nord?
T'es-tu sûr que tu nous as déjà parlé de ça?
Ben, toi, t'étais pas là, celle-là.
Ah, ben là, j'ai un bypass, moi.
C'était Pierre qui animait cette fin de semaine-là.
Ah, ouais?
Alors,
ben, me semble que je suis dans le nez.
Plus petit parc national au Québec, parc du Mont-Tremblant, A. B, Miguacha, C, le Bic, D, le parc national Tourjouchouk.
Mm-hmm. Eh ben,
alors, votre réponse, messieurs?
Faut-tu qu'on
moi, je dis le Bic.
Alors, c'est pour le Vez.
Moi aussi, j'ai mis le Bic, j'ai copié sur Vez.
Parfait, on a deux C.
Moi, j'ai dit D.
D, le parc national Tourjouchouk.
Ben oui.
Alors, la réponse, c'est B. Oh. Miguacha.
Pas mal, les gars, ça pas mal.
Miguacha, c'est le nom de la baie des Chaleurs, en Gaspésie, près de Carleton-sur-Mer.
Ah ben, les maudits.
C'est Carleton.
Carleton, je dis Carleton. Ouais, Carleton, ouais. C'est ça.
Le Carleton Vez, par sur exemple, mer. Avise-toi d'avoir la bonne réponse quand je triche sur toi, par exemple.
Alors, donc, il y a un demi-kilomètre carré. C'est une falaise, dans le fond. C'est un parc fossilifère. Il y a des fossiles, là.
Ah,
Il y en a plein. Il a été découvert en 1842. Puis on estime l'âge des fossiles à cet endroit-là à 380 millions d'années. Alors, donc, à un demi-kilomètre carré, évidemment, c'est le plus petit. Le Bic, c'était pas une mauvaise réponse en soi, parce qu'il est 30 kilomètres carrés. Il est vraiment pas grand. Puis Tourjouchouk, c'était vraiment une mauvaise réponse, parce que celui-là, c'est le plus grand au Québec.
Ah.
26 000 kilomètres
carrés. Ça, je le savais.
C'est pour ça que j'avais retenu le nom de ce parc-là. Probablement, c'était le plus grand. Fait que j'ai dit, ben oui.
Puis le parc du Mont-Tremblant, ben, c'est le premier. Le premier parc national créé au Québec, c'est celui-là.
Ça semblait aussi.
Alors, voilà. Alors, qu'est-ce
que c'est? On salue Heidi de Mont-Tremblant,
oui,
en passant.
Auditrice
et personnage régulier de l'émission. OK.
OK. Alors, question numéro 2. La crise d'octobre a eu 50 ans cette année. Le diplomate britannique James Cross a été enlevé quelques jours avant Pierre Laporte. Le Front de libération du Québec, le FLQ, était divisé en cellules. Mmh. Et je veux savoir comment s'appelait celle qui a enlevé James Cross. Hey. Est-ce que c'était A, la cellule Libération, B, la cellule Chénier, C, la cellule Patriote ou D, la cellule République?
Ah, mais attends un peu, là.
J'en ai deux, là. Puis c'est,
ben, c'est ça, c'est laquelle des deux?
Il y en a une, c'est la porte, l'autre, c'est Cross.
C'est Cross.
Alors, A, Libération, B, Chénier, C, Patriote, D, République.
Puis là, en plus...
OK, un instant, faut réfléchir, un instant.
Mais là, François a utilisé la pogne des profs, en plus, là.
Ouais. Libération, République, puis Patriote.
Mm.
Non, c'est pas ça la pogne des
profs. Ben, tu vas voir...
Trois mots que ça a l'air d'appartenir au même lexique.
Ça, mais c'est parce que, en tout cas, quand François va donner la réponse...
Un instant.
On verra bien.
Alors, messieurs...
Pff, regarde, je suis avec Chénier, mais c'est...
Ouais, moi, je dis B.
Ben,
alors,
c'est quoi B?
C'est Chénier aussi. C'est
ouais.
Aussi.
On alors, a tous dit B, mais l'affaire, c'est que... La première question, c'était B, là, ça ferait deux B de suite. Fait que là, c'est ça qui est tannant.
Ah, toi, c'est ça,
ça les profs. Okay.
Alors, A, Libération, B, Chénier, C, Patriote, D, République. Donc, vous dites tous B?
Ben, je vais changer. Moi, vu qu'ils ont tous dit B, je vais changer pour Libération, moi.
OK. Alors, là, personne change.
Libération.
Non. Libération. Les autres restaient là.
Ah oui.
Alors, ton changement est payant parce que c'est la réponse, c'est A, libération.
Hey, t'es supposé copier sur
changer de même.
Ouais, mais savez-vous, t'as parlé de twist de prof, là, la technique des profs. Là.
Ouais.
Je me suis dit, si y a mis libération, patriote, puis l'autre, c'était...
République.
République. Ça doit être pour essayer de nous flouer, puis c'est libération.
Ah, je déteste pas ça aussi.
Alors, c'était celle des Cossettes Trudel, la cellule libération. C'était une cellule pratiquement familiale. Là. Il y avait tous des liens familiaux là-dedans. Elle enlève James Cross le 5 octobre 1970 et la cellule Chénier, celle des frères Rose, enlèvera Pierre Laporte 5 jours plus tard.
C'est ça.
C'est bien.
Patriote puis République, à ma connaissance, c'est des cellules qui n'existaient pas.
OK.
Alors, c'est des inventions de mon cru.
Bravo.
T'as okay. Un très bon cru, en passant.
Alors, troisième question. Puis ça, c'est une chronique récente, là. Alors, votre mémoire devrait être assez fraîche pour celle-là.
Si on écoutait.
Oui, bien sûr, hein?
T'es sûr que Vez n'était pas en train de checker la Formule 1, là?
Ouais, c'est ça, ou du football. Ou...
Alors, l'industrialisation de la Nouvelle-France fut très lente. C'est en 1668, 60 ans après la fondation de Québec et par le fait même de la Nouvelle-France, que la première industrie en Nouvelle-France est mise sur pied. Quelle fut la première? Est-ce que c'était A, un chantier naval? B, une tannerie ou C, une forge? A, un chantier naval.
Boy.
B, une tannerie ou C, une forge?
Ah, oh, maudite affaire.
Le Vez semble sûr de sa réponse.
Je pense que oui.
Avoir son faciès. Du côté de Paul Raphaël, c'est plus compliqué. Et quand même, Alexis est stoïque.
Et oui, 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 oui.
Alors, messieurs, votre réponse?
B, la tannerie.
Alors, B pour le Vez.
Même affaire.
B pour tout le monde.
C'est ce que j'ai aussi, ouais.
Tout le monde dit B. Alors, vous avez tous raison.
Yes! Yes! On vient d'éviter le blanchissage.
Alors, c'était une tannerie. La première est installée sur la rive sud du fleuve dans la seigneurie de Lauzon. Les chantiers navals et les forges viendront quelques années plus tard avec l'intendant Hocquart, qui a été le premier à avoir véritablement lancé l'industrialisation de la colonie. Mais son prédécesseur, Jean Talon, lui avait autorisé l'installation de tanneries. Alors, la première, c'est une tannerie.
Bravo à nous.
Alors, puisqu'on est sur la rive sud, Guillaume Couture
fut
le premier à s'installer sur la rive sud en face de Québec. Il avait réussi à tisser des liens avec les Iroquois ennemis des Français. Et combien d'années après la fondation de Québec, Couture s'installa-t-il de l'autre côté du Saint-Laurent? Est-ce A, 20 ans? Souvenez-vous, là, c'est 1608, la fondation de Québec. Alors, A, est-ce que ça a pris 20 ans avant qu'on voit quelqu'un s'installer sur la rive sud? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai sauté le B. Alors, B, 32 ans. D, 39 ans. C, 39 ans, pardon. Et D, 50 ans. Alors, S, A, 20 ans. B, 32 ans. C, 39 ans. Ou D, 50 ans. Parce que là, dans le formulaire, ceux qui le suivent, là, j'ai fait A, C, D, E. Là. Mais,
A, B, C, D.
C'est A, B, C, D, dans le fond.
Hey, boy, j'aurais eu... Y allez-vous au pif, vous autres, ou bien vous le savez?
Non, je sais pas.
Moi, je vais à la pêche.
Moi, je vais essayer de quoi, là?
Okay, bon, ben, essayez, ben, les gars. C'est
je
l'heure.
Vais y aller pour... OK, c'est beau.
Alors, Alexis, ta réponse, c'est?
Ben, moi, ça va être C, 39 ans.
39 ans?
Même chose.
Même chose?
Ah, ben, moi aussi, mais c'est vraiment un hasard.
Vous avez tous raison.
Hey, all right! Yes, on est vraiment hot.
Hey, Vez, j'ai pas copié sur toi, je te le promets. Mentale. C'est vraiment un hasard.
les chiffres ronds, ça marchait pas.
Alors, c'est 39 ans. Les Iroquois considéraient la rive sud du Saint-Laurent comme leur territoire et ne toléraient aucun Français sur ces terres-là. C'est pour ça que ça a pris tant de temps. Guillaume Couture, comme je l'ai dit dans la question, a réussi à tisser des liens avec les Iroquois. Il s'y installe en 1647. J'ai marqué 48, c'est 47. Grâce aux bonnes relations qu'il avait établies avec les Iroquois au cours des années précédente. Donc, ça a pris 39 ans avant qu'on voit le premier habitant sur la rive sud de Québec. Question 5. Robert Bourassa n'avait que 33 ans lorsqu'il est élu premier ministre en 1970. D'ailleurs, parenthèse, cette chronique-là a été inspirée par Alexis, notre ami Alexis, qui savait que c'était au mois d'octobre, c'était l'anniversaire de son décès à Monsieur Bourassa, puis il a dit, ce serait le fun d'en parler. Fait que j'ai dit, OK.
Bravo, Alexis.
C'était fort intéressant.
À défaut d'avoir des bonnes notes à tes examens d'histoire,
j'ai 50%.
T'as inspiré une chronique.
Alors, 50%. Logiquement, okay. Alexis va avoir la réponse, la bonne réponse à cette question. Alors donc, Robert Bourassa, 33 ans quand il est élu premier ministre en 1970. Il est issu du milieu économique et ce champ d'activité est évidemment sa priorité tout au long de son règne. Ce qui lui a valu ce surnom, parce qu'à sa première campagne électorale, il martèle le thème de l'économie. Est-ce que son surnom était A, le cerveau de la finance, B, l'égérie de l'économie, C, le John Maynard Keynes québécois ou D, Bob Lajob? A, le cerveau de la finance. B, l'égérie de l'économie. C, le John Maynard Keynes québécois. Ou D, Bob Lajob.
Le reste, c'est un avantage sur nous autres. Là.
Parce que moi, j'étais
le coach au baseball.
Oui, entre autres.
Alors, vos réponses, messieurs.
Bob Lajob.
Moi aussi, j'ai mis Bob Lajob.
Vous avez tous mis D, Bob Lajob?
Ben oui.
C'est pas le cerveau de la finance, ni l'égérie de l'économie, ni de John Maynard Keynes québécois.
Essaye pas de nous pogner.
Il y avait tellement de toi dans ces choix de réponses-là, me semble.
Eh bien, vous avez raison, Bob Lajob.
Parce qu'il avait promis 100 000 emplois.
Exact, c'est exactement ça. Sa première campagne électorale, il martèle son message de création d'emplois. Il promet 100 000 jobs. C'est comme ça qu'il le disait dès son premier mandat, d'où ce charmant surnom. Plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec à 33 ans, il avait fait de hautes études en droit financier à Harvard et en sciences économiques à Oxford en Angleterre. Fait que donc, tous ces autres surnoms-là, ça se pouvait. Sauf l'égérie. Parce que
l'égérie de la finance.
L'égérie, c'est quelque chose qu'on donne à une. C'est une femme. Une égérie, c'est une femme. Ça pouvait pas être lui, là.
Ah bon?
C'est une égérie. Mais je trouvais qu'égérie de l'économie, ça se glissait bien dans un questionnaire.
Mais en plus, un mot que quelqu'un que personne ne connaît, ça peut pas être dans un surnom.
Oui, voilà. C'est ça.
Exact.
Surtout au Québec, bon, là, on a des surnoms simples.
Exactement.
Question 6.
Question 6. L'Université Laval fut la première à voir le jour au Québec en 1852. Il y en avait encore quelques-unes à l'époque dans le Haut-Canada et aussi à Montréal, mais l'Université Laval, c'était la première francophone. La deuxième université francophone au Québec voit le jour à Montréal en 1878. Et cette université était une succursale de l'Université Laval. Vrai ou faux?
Hey boy, je suis tombé dans l'une, j'ai regardé la TV. Peux-tu répéter la question?
Alors donc, l'Université Laval est fondée à Québec en 1852. C'est la première université francophone au Canada. Puis la deuxième, elle est fondée à Montréal en 1878. Ma question, vrai ou faux, cette université-là à Montréal, c'était une succursale de l'Université Laval. Vrai ou faux? Vez a l'air tellement certain.
Je suis convaincu.
Alors,
si je ne l'ai pas, là...
Là, c'est Paul Raff qui va nous dire sa réponse en premier.
Oui.
Vrai pour Paul Raff, Alexis?
J'ai dit vrai aussi.
Vrai aussi, puis je l'ai remarqué parce que c'est l'Université de Montréal, puis il y a tellement de rivalité entre les Carabins et le Rouge et Or que c'est un peu paradoxal que ce soit une succursale de l'Université Laval qui est à Montréal.
L'UDM, ça serait une succursale de l'Université Laval. Niaiseux!
C'est vrai. Alors, la réponse, c'est vrai. À l'époque, la religion prime surtout, même sur la langue. Et pour mettre sur pied une université, il faut entre autres recevoir l'aval du pape. Le pape avait son mot... avait son mot à dire là-dessus. Comme dans ces années-là, l'évêque de Québec avait une plus grande influence au Vatican que celui de Montréal, ben, le pape a octroyé le droit d'ouverture d'une université montréalaise aux dirigeants de l'Université Laval. Mais les autorités religieuses de Montréal, à un moment donné, là, vont prendre le contrôle de cette université, maintenant appelée l'Université de Montréal. Ça s'est fait en 1920.
Bravo.
Question numéro 7.
Yes.
Les Juifs furent relativement peu nombreux à s'installer à Québec, mais certains d'entre eux ont laissé leur marque. On pense à Maurice Pollack et son célèbre magasin qui a eu pignon sur rue pendant presque 60 ans sur le boulevard Charest. Il y en a un autre, Marcel Adams, qui a eu la vision de bâtir un centre commercial dans un champ, les Galeries de la Capitale. Ça a été un succès bœuf, on le connaît maintenant. Mais c'était pas le premier centre qui construisait, lui, dans la région. C'était le deuxième. Quel était le premier? Était-ce A, les Galeries de la Canardière, B, Place Sainte-Foy, C, les Galeries Chagnon ou D, Place Laurier? A, les Galeries de la Canardière, B, Place Sainte-Foy, C, les Galeries Chagnon, D, Place Laurier. Vez a l'air d'une confiance, là. Il est presque aussi arrogant que Tiger Woods.
J'étais là. Moi, l'histoire, là, j'ai
coupé le ruban.
Je l'ai pas étudié, je m'en souviens.
T'as coupé le ruban?
Alors, Paul Raphaël, ta réponse?
Ma semble, c'est les Galeries de la Canardière.
Alors, A, les Galeries de la Canardière.
Moi aussi.
Vez aussi. Et Alexis?
Moi, inspiré par Paul, qui avait l'air si déterminé de sa réponse A tout de suite après que tu l'aies nommé, j'ai voté pour A aussi.
Il s'est inspiré de mon nom verbal.
Ça, alors, donc, tout le monde a répondu A, et la bonne réponse, c'est A. Les Galeries de la Canardière.
On est tellement trop fort.
Ce centre est le deuxième construit dans la région de Québec en 1960, après Place Sainte-Foy, qui a vu le jour en 1958. Monsieur Adams avait l'œil sur le terrain de Place Sainte-Foy à l'époque, mais il s'est fait damer le pion par la famille Steinberg. Il a donc construit son centre commercial beaucoup plus loin. Il va faire la même chose pour les Galeries de la Capitale une vingtaine d'années plus tard. Puis de toute évidence, ce choix-là était le bon. Alors, bravo tout le monde. Vous allez avoir une bonne note, finalement.
Ben là, on
ça
est...
Moi, j'ai la note de passage. J'ai
5 sur 7, là.
C'est bon. Oui. Alors, huitième question. la beauté et le charme de la ville de Québec est l'œuvre de plusieurs architectes qui se sont succédés pendant une centaine d'années, principalement entre 1820 et 1920. Vous vous souvenez de ma série sur les architectes de Québec?
Je sens que c'est le bout qui va être tough, ça.
Une famille s'est particulièrement distinguée. Elle est responsable de plusieurs des plus beaux bâtiments de Québec. Et il y a quatre générations de cette famille-là qui a travaillé sur la basilique Notre-Dame de Québec. De qui s'agit-il? Est-ce A, les Pichet, B, les Baillargeais, C, les Tanguay ou D, les Taché, ou même E, les Stachny? Alors A, les Pichet, B, les Baillargeais, C, les Tanguay, D, les Taché, E, les Stachny.
Je dois dire que ce choix de réponse est intéressant, à part les Stachny, évidemment, là, avez-vous mis vos réponses avant que je commence à déjà donner des... Tu sais, Baillargeais, Pichet, c'est des noms qu'on a entendus. Tanguay, je ne me souviens pas, par exemple.
Oui, j'en ai parlé.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est tous des noms d'architectes.
J'en ai tous parlé de ces architectes-là. Ce sont tous des architectes, là, à part les Stachny, évidemment, c'est une joke. Mais ce sont tous des architectes. Mais il y a une bonne réponse, évidemment. Alors...
Fez, t'étais là, toi, tu t'en souviens?
Ben moi, j'ai donné un coup de main. Je travaille sur le chantier.
C'est lesquels que tu aurais coaché au baseball, mettons, que tu as mis ta feuille?
Moi, j'ai mis B.
Les Baillargeais?
Mais je suis pas sûr.
Ben moi, sincèrement, les Baillargeais, c'est eux dont je me souviens le plus à travers tes chroniques.
C'est les plus connus, je pense.
Mais il me semble qu'il y avait plusieurs générations de Baillargeais aussi. Moi, j'ai mis Baillargeais aussi.
Je pense qu'il y avait plus qu'une génération des quatre, là. Je suis pas sûr, là, mais...
Pas mal.
Hey, maudit. Ben, j'ai mis Baillargeais, moi aussi.
Alors, vous avez tous la bonne réponse.
Okay!
Alors, les Baillargeais, Thomas Baillargeais, c'est celui qui a eu le plus grand impact dans la famille. Son grand-père, Jean, est impliqué dans la reconstruction de la basilique Notre-Dame après la conquête, car elle avait été incendiée pendant les bombardements du siège de l'été 1759. Le père, François, est le responsable de la décoration intérieure au début des années 1800. Il a tellement bien réussi, publié le patrimoine historique que la décoration intérieure avait. Quand l'église a brûlé en 1922, on a reconstruit à l'identique à l'intérieur. Thomas, lui, va convaincre le diocèse d'agrandir la basilique, mais là, va demeurer inachevée. La façade est refaite, mais il y a une deuxième tour qui devait côtoyer celle d'origine, puis ils l'ont semi-complétée. Puis son neveu, Charles, a construit la clôture en fer qui délimite le parvis de l'église. Juste devant, il y a une clôture en fer forgé. Là.
Oui.
C'est le neveu Charles qui l'a fait. Alors, sur la basilique Notre-Dame de Québec, il y a quatre générations de Baillargeais qui ont travaillé dessus.
Tout le monde a donc la note de passage, est-ce que je comprends?
Oui, absolument.
Moi, j'ai 6 sur 8.
On évite donc l'humiliation, c'est
absolument.
Pas pire.
Oui, je ne serais pas obligé de refaire les mêmes chroniques à partir du mois de janvier.
OK, question, il reste la question 9, question 10 et bonus.
Parfait. Alors, François-Xavier Garneau, bien plus que cégep. Voilà.
Ouais.
Fut le premier historien du Canada. Ses parents étaient illettrés, mais croyant en l'importance de l'éducation. Cependant, ils n'avaient pas les moyens de l'inscrire à l'école. C'était payant dans ce temps-là. C'est un notable de Québec, fondateur d'une école pour les enfants pauvres de la région, qui va permettre à François-Xavier Garneau d'acquérir les connaissances qui l'ont mené comme premier historien du Canada. Alors, qui était ce mécène? Est-ce A, Wilbrod Bérère, bien plus qu'un centre de formation professionnelle. Est-ce Zéphirin Charest, bien plus qu'un...
boulevard.
Et voilà.
Et autoroute, boulevard.
Est-ce C, Joseph-François Perrault,
bien plus qu'une école secondaire.
Ou D, Franck Carrel,
bien plus qu'une voie de décès.
Mais oui,
et voilà.
T'as-tu mentionné une année, une date, quelque
Alors,
chose?
Alors...
Ça, c'est tough.
Ben, en fait, François-Xavier Garneau a vécu de... Il est mort en 1869.
Okay.
Il est né en 1800...
T'étais pas là, Vince.
9, je pense. Il a vécu 70 ans à peu près.
Ouais.
Alors, c'est dans ces dates-là. Alors, A, Wilbrod Bérère, B, Zéphirin Charest, C, Joseph-François Perrault, D, Franck Carrel. Là, je vois que Vez hésite, alors...
Ouais. Non, mais OK.
Ouais, t'es pas mal sûr?
Je pense que ouais, c'est plus par déduction que...
Alors, Alexis, ta réponse?
Moi, je dis A, Wilbrod Bérère.
Wilbrod Bérère?
C'est un peu, là, je suis tellement fourré, là.
Ben là...
Alors, A, Wilbrod Bérère, B, Zéphirin Charest, C, Joseph-François Perrault, D, Franck Carrel.
Tu vas copier sur moi.
Non, mais c'est parce que je me semble que c'est lui qui a fondé l'école Perrault. Je me trompe-tu? Je suis tellement mêlé.
Ben là, l'école Joseph-François Perrault n'a pas été fondée par aucun des quatre. Ça, je peux vous le dire.
Arrête de donner des indices.
Et là. Je vais y aller vraiment.
Ils étaient tous morts de leur belle mort quand l'école Joseph-François Perrault a été inaugurée. C'était en 1960 ou à peu près. Là.
Oh mon Dieu, je sais pas. Vez, t'as mis quoi, toi?
Je te dis pas.
Ah ouais,
déjà. Alors, je vais mettre Perrault, là, mais c'est alors, pas un patriote, attends, ça, Perrault. Papineau, je suis tout mêlé. Perrault.
Moi, j'ai mis Béziférin Charest, qui était un évêque, donc c'était un peu sa mission d'aider les enfants qui avaient moins les moyens ou les familles.
J'espère qu'il
l'a. C'est le plus vieux. Je pense que c'est le plus vieux des quatre candidats.
En fait. Ben, premièrement, la bonne réponse, c'est celui qui a hésité le plus qu'il l'a. Alors, c'est Joseph-François Perrault.
C'est affaire.
Zéphirin Charest était effectivement un prêtre. Il a été le curé de Saint-Roch pendant longtemps. Puis lui aussi a fondé des écoles dans son quartier pour les enfants défavorisés. Mais celui qui a chapeauté, entre guillemets, François-Xavier Garneau, c'est Joseph-François Perrault. Sa famille, lui, avait fait fortune dans la traite de fourrure. Puis Perrault s'établit à Québec et constate le faible niveau d'éducation d'un grand nombre de ses compatriotes.
C'est ça.
Puis ayant à cœur la survie de la langue et de la culture d'ici, il met sur pied la Société d'éducation du district de Québec.
De Québec, c'est ça.
Qui prendra en charge l'éducation de plus de 2000 jeunes pendant une quinzaine d'années autour de 1820, 30 et 40. Alors, la bonne réponse, c'est Joseph-François Perrault.
T'as aucun mérite.
Ça fait mal, hein?
T'as aucun mérite, c'est juste de la loque.
Le lien le plus facile à faire, c'était François-Xavier puis Joseph-François.
Mais pour vrai, je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui me disait que c'était Perrault. Ça doit être parce que j'écoute les chroniques de François, je sais pas. Là,
ben, en fait, évidemment, on a fait une chronique à un moment donné sur bien plus que... Puis on a parlé de Zéphirin Charest, qui a donné son nom au boulevard. Puis on a parlé, évidemment, que ce monsieur-là, curé de Saint-Roch, qui était très apprécié par ses ouailles, avait fondé des écoles pour aider les jeunes défavorisés. Mais quand on a parlé de François-Xavier Garneau, le lien était direct, là. Puis on a même fait une chronique par la suite sur Louis-Joseph, Joseph-François Perrault. Parce que pourquoi on avait donné un nom d'école secondaire à
c'est
ce gars-là?
C'est ça.
Ben, c'est pour ça. C'est
question
carrément
10.
Pour ça. Alors, environ 500 Hurons sont venus s'installer dans la région de Québec après la défaite de leur peuple face aux Iroquois au début des années 1650. Ils ont testé plusieurs endroits avant de se fixer à leur emplacement actuel, Wendake. Ils ont fait ça en 1697. Parmi les endroits qui suivent, lequel n'est pas répertorié dans les lieux habités par les Wendat entre 1650 et 1697?
Oh, c'était la semaine passée. En
est-ce A, l'île d'Orléans, B, Sainte-Foy, C, l'ancienne Lorette, D, Lévis ou E, la seigneurie de Sillery? A, l'île d'Orléans, B, Sainte-Foy, C, l'ancienne Lorette, D, Lévis, E, la seigneurie de Sillery. Il y a un intrus dans cette série de questions-là. Ou dans cette série de choix de réponses.
Oh boy. OK. Êtes-vous prêts, vous autres?
Non. Oui.
Pas ton temps, Alexis, mais pas trop.
Oui. Ouais.
Bon, OK.
Alors, c'est Paul Raphaël qui donne sa réponse en premier.
Je suis vraiment pas certain, mais je vais dire Lévis parce que c'était un territoire iroquois.
Au moins, il y a une logique là-dedans. Ouais. Alexis?
Peut-être qu'ils n'ont pas voulu y aller parce qu'ils voulaient pas se faire scalper.
Moi, j'ai écrit Lévis aussi. De Lévis.
Et Vez?
Ben, moi aussi.
Bon, ben, vous avez tous la bonne réponse.
Merci!
Alors, il y a plusieurs nations amérindiennes qui fréquentaient la rive sud du fleuve face à Québec pendant cette période-là, mais les Hurons n'ont pas fait partie du groupe. La majorité sont installés à l'île d'Orléans, quelques-uns à la seigneurie de Sillery. Après ça, ils se sont déplacés vers Sainte-Foy, ancienne Lorette. Puis ils sont partis vers Wendake, où ils sont toujours maintenant.
L'auditeur a dit, avant l'aéroport, il n'y a personne qui voulait s'installer à l'ancienne Lorette.
Ben, les Hurons l'ont fait.
OK. Alors, question bonus.
La question bonus.
Oh, oui, c'est vrai.
On parlait des Hurons. Ben, Max Gros-Louis, qui est décédé le mois dernier, est l'un des membres les plus connus de la communauté Huron-Wendat. Son nom, en langue Huron, est Oneonti. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce A, le bon guide? B, le grand sage? C, le bon pagayeur? D, le grand dirigeant? Ou le bon joueur de tam-tam.
Eh merde, je pensais que ça me reviendrait quand tu le dirais, puis là, je sais plus.
Alors, A, le bon guide, B, le grand sage, C, le bon pagayeur, D, le grand dirigeant, ou E, le bon joueur de tam-tam.
Je vais dire le bon guide, moi.
Alors, A pour Paul Raphaël?
C'est ça, ouais.
C'est ta réponse, guide. Le bon guide, A.
Moi, je vais dire le bon pagayeur.
Pagayeur,
Les deux, vous prenez C?
Pagayeur, oui.
C'est votre réponse finale?
Finalizer. Oui.
Alors, la bonne réponse, c'est le bon pagayeur.
Oh!
Alors, ça aurait pu être le bon guide, le grand sage, le grand dirigeant, mais c'est le bon pagayeur.
On a 9 sur 10?
Non.
Moi, j'ai 8 sur 11.
On a 8 sur 10. Mais
c'est une question bonus. Alors, si vous l'avez, la question bonus, c'est sur 10.
Parce que t'as triché, Paul.
Fais 8 sur 10. Alexis, 8 sur 10. Paul, 9 sur 10. Dans la vie, il faut faire ce qu'on peut pour obtenir ce qu'on veut. J'ai triché, mais j'ai gagné. Ça veut dire que je suis le plus intelligent. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Alors, merci, comme vous passez tous, mais on peut continuer à partir du mois de janvier.
Oh, ben merci, François. François sera de retour au mois de janvier, tout comme nous autres, d'ailleurs, parce que c'est notre dernière émission avant, ben, les trois ensemble, là, avant 2021. Merci, François.
Le plaisir est pour moi.
On le dit aussi, mais si jamais ça vous tente là, de repasser le test ou de faire un, ça devient un jeu, dans le fond, c'est un quiz là, sur l'histoire avec vos amis, avec vos familles, peu importe, ben, c'est disponible au fm93.com. Sur le site, vous pouvez avoir accès aux questions que François vient de nous poser. Merci, on revient, ça va pas long.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Que Québec se lève.
Au FM 93. 93.